VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 octobre 2015. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. D'abord, les titres. Violence meurtrière au Congo à 4 jours du référendum constitutionnel.
Nous, on n'en peut plus communiquer, l'Internet est coupé, les SMS s'est coupé aussi. Bon, en un mot, on est dans une situation où on ne peut plus contrôler ce qui se passe. Bon.
Nous entendrons Loamba Moké, militant des droits de l'homme à Brazzaville.
Burkina Faso, un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de l'épouse du général Gilbert Diendéré.
En Syrie, la guerre continue de pousser des dizaines de milliers de personnes à l'exode.
Reportage sur des drones qui pourraient aider le travail des pompiers en cas de feu de forêt ici aux États-Unis.
Nous pouvons combattre le feu 24 heures sur 24, l'appareil étant téléguidé avec option pilotage. C'est un avantage et vous pouvez larguer de l'eau sur les feux 14 à 15 heures de plus qu'avec l'appareil piloté.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, au Congo, 4 personnes au moins ont été tuées hier dans les 2 principales villes du pays lors de heurts entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Henri Francisque.
Le bilan provisoire de 4 morts, dont 3 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire, a été donné dans la soirée par le ministre de l'Intérieur, Raymond Mboulou, dans une déclaration faite à la télévision publique. 7 manifestants et 3 membres des forces de sécurité ont été blessés. Les violences ont éclaté après l'annonce publique, tôt dans la matinée, de l'interdiction de rassemblement contre le référendum annoncé pour le début de l'après-midi par une opposition ayant appelé à la désobéissance civile à partir de mardi. Alors que la quasi-totalité des magasins, des écoles et des administrations de Brazzaville étaient restées fermées, des jeunes sont sortis dans la rue en incendiant des pneus à Makelekele et Bakongo, 2 quartiers du sud de la capitale réputés proches de l'opposition, ainsi que dans des quartiers ouest. La police a ouvert le feu à plusieurs reprises. À Pointe-Noire, des jeunes sont également sortis dans les rues en incendiant des pneus et des tirs sporadiques d'armes légères ont été entendus. En visite à Kinshasa, sur la rive opposée du fleuve Congo, la sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, Sarah Sewall, a exhorté toutes les parties à dialoguer et à renoncer à l'action violente.
Au Burkina Faso, la justice militaire a lancé un mandat d'arrêt international contre Fatou Diendéré, née Diallo, l'épouse du général Gilbert Diendéré, le chef du putsch manqué du 17 septembre au Burkina Faso. Élue à l'Assemblée nationale en 2002, Madame Diendéré y a été réélue jusqu'en 2012 pour le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Sa candidature aux législatives avait été rejetée par le Conseil constitutionnel au même titre que celle d'une cinquantaine de ses camarades du parti parce qu'elle avait soutenu la réforme de la Constitution qui devait permettre à Compaoré de briguer un nouveau mandat. Le général Diendéré est poursuivi pour 11 chefs d'inculpation, dont celui de crimes contre l'humanité.
Retour sur le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Les dernières plaidoiries qui devaient se tenir fin octobre vont être décalées. Abdou Chakour Aboud nous donne des détails.
Le calendrier initial du procès de l'ancien homme fort du Tchad devant un tribunal spécial africain à Dakar ne sera pas respecté, a appris l'AFP d'une source au sein de cette juridiction.
Les toutes dernières plaidoiries qui devaient avoir lieu dans quelques jours sont repoussées à une date ultérieure. Impossible pour lors de savoir si ce nouveau délai va être de quelques semaines ou quelques mois. Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture durant sa présidence au Tchad, comparait depuis le 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine qu'il ne reconnaît pas. Il refuse de s'exprimer et de se défendre devant cette juridiction.
Hissène Habré encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité.
Une commission d'enquête tchadienne a estimé que la répression durant sa présidence a fait 40 000 morts.
Malgré la signature de l'accord de paix au Mali, le pays doit encore cependant relever de nombreux défis en matière de respect des droits de l'homme, a estimé l'expert onusien Souleymane Baldo à l'occasion de sa visite dans le pays, Claire.
Préparant un rapport pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme, M. Baldo a dénoncé les récentes violations de l'accord de paix et de cessez-le-feu par les mouvements politico-militaires signataires de l'accord, mais également les attaques terroristes en hausse dans le nord et s'étendant progressivement vers le centre et le sud du pays. Et le trafic international de drogue, les crimes économiques transnationaux et les réseaux de trafic locaux. Souleymane Baldo a regretté la lenteur de procédures mises en place pour traiter des crimes de guerre et les violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le nord du pays depuis 2012.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. En Syrie, des dizaines de milliers de personnes ont été poussées à l'exode face aux offensives des forces du régime appuyées par l'aviation russe, dont plus de 500 raids ont tué en trois semaines 370 personnes, en majorité des rebelles. Selon l'Observatoire syrien de défense des droits de l'homme, 100 000 personnes fuyaient hier l'offensive de l'armée dans les provinces de Hama, Alep et Latakia.
Les États-Unis et la Russie ont signé, à propos de ce dossier syrien, ont signé mardi un protocole d'entente permettant à leurs avions respectifs de maintenir une distance de sécurité entre eux dans le ciel syrien. Les précisions d'Eddie Sango.
Les porte-parole du Pentagone se refusaient à dire clairement quelle était cette distance, mais à souligner que les équipages américains savent exactement ce qu'il en est. On peut sûrement dire que tout ce qui serait jugé menaçant ou hostile sera considéré comme une violation de ces protocoles, a indiqué Peter Cook. Les porte-parole du Pentagone a également déclaré que les mémorandums établissent plusieurs accords visant à maintenir la discipline aéronautique professionnelle ainsi que l'utilisation des fréquences radio et de la création d'une ligne secondaire de la communication au sol. La Russie doit maintenant se conformer à ces protocoles en Syrie. Nous ne voulons pas de mauvais calculs, a déclaré les porte-parole du Pentagone. Selon Peter Cook, les États-Unis poursuivront leur propre stratégie en Syrie et continuent de penser que celle de la Russie est contre-productive et ne fera qu'aggraver la guerre civile syrienne. Le Pentagone n'a relevé aucun incident majeur dans les ciels syriens depuis le début des opérations russes, bien que des cas où les avions de la coalition ont dû changer de direction pour éviter ceux de la Russie ont été signalés.
Au Canada, l'écrasante victoire des libéraux aux législatives donne au futur premier ministre, Justin Trudeau, la liberté d'instiller un nouveau style de gouvernement avec un retour au multilatérisme et un élan pour l'environnement, deux lacunes de la diplomatie canadienne depuis 10 ans. Anastasie Tudiache.
Le Canada est de retour, a lancé mardi Justin Trudeau aux amis du Canada à travers le monde qui se sont inquiétés du fait que le Canada avait perdu sa compassion et sa voix constructive dans le monde au cours des 10 dernières années. Pour le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le prochain gouvernement canadien avait un rôle particulier à jouer pour donner une impulsion sur les questions de changement climatique, particulièrement à la conférence sur le climat de Paris en décembre. Quant à l'hôte de cette conférence, le président français François Hollande, il a indiqué que ce sera pour les deux hommes une précieuse occasion d'illustrer la volonté d'agir ensemble au service de la paix et de l'avenir de la planète. Le Canada, sorti par les conservateurs du protocole de Kyoto en 2011, est régulièrement critiqué pour son manque d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'exploitation pétrolière des sables bitumeux, figurant parmi les formes les plus polluantes d'énergie. Sur le plan international, l'engagement du Canada dans les frappes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, au sein de la coalition internationale menée par les États-Unis, va rattraper M. Trudeau, pour qui le rôle du Canada doit être de former les forces irakiennes et d'apporter une aide humanitaire.
Au deuxième jour de sa visite surprise au Proche-Orient pour tenter d'apaiser les tensions israélo-palestiniennes, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas aujourd'hui en Cisjordanie. au lendemain de ses entretiens avec les dirigeants israéliens qu'il a mis en garde contre un usage excessif de la force, alors que les violences ne connaissent aucun répit.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Voici la Minute Écho, ce soir avec Nathalie Barge.
Au Burkina Faso, la commission d'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale a recouvré la somme de 4,9 milliards de francs CFA, rapporte l'APA, citant le ministère des Finances. Le manque à gagner global est de près de 400 milliards de francs CFA pour les trois dernières années. La commission recommande, entre autres, la poursuite administrative ou pénale, notamment des agents publics et des banques mises en cause par l'analyse du portefeuille des chèques impayés du Trésor. En Guinée, le président du groupe organisé des hommes d'affaires s'est dit solidaire de la décision de certains commerçants de fermer leurs magasins tant qu'ils ne seront pas dédommagés des pertes causées par les violences préélectorales. Chérif Abdallah a fait part de sa préoccupation dans une radio locale sur les actes de vandalisme et de pillage systématique contre les commerces lors de contestations politiques en Guinée. La zone franche de Tanger au Maroc a été classée meilleure zone franche 2015 en Afrique par FDI Intelligence, indique la plateforme industrielle Tanger Med, citée par la Nouvelle Tribune. Le classement annuel compare près de 80 zones franches. Tanger Free Zone fait partie de Tanger Med Zone, qui comprend plus de 650 entreprises en activité, notamment autour des filières de l'automobile, l'aéronautique, le textile et divers services.
Voilà pour la Minute Écho. Merci Nathalie. Et tout de suite, notre page sport avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Claire.
Coup d'œil ce matin au football européen avec la troisième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions.
Belle prestation du Zénith Saint-Pétersbourg qui a remporté sa troisième victoire consécutive 3-1 devant Lyon dans le groupe H et se rapproche un peu plus de huitième de finale. Le Nigérian Aideye Brown a inscrit l'unique but de la partie hier pour permettre à Olympiakos de défaire Dynamo Zagreb. Barcelone conforte sa place en tête du groupe E après avoir défait Bate Borisov 2-0. Et festival de buts dans le match Bayer Leverkusen-Roma, le club allemand a gaspillé une avance de 2 buts et a dû batailler dur pour obtenir un nul, 4 buts partout. Arsenal s'est remonté le moral après 2 défaites consécutives en battant le Bayern par 2-0. Et frustrante journée pour Chelsea qui a dû se contenter d'un nul, 0 buts partout face à Dynamo Kiev.
Le tribunal de Zurich a rejeté la demande du sud-coréen Chung Mon-jun qui demandait la levée provisoire de sa suspension de 6 ans par la FIFA pour se présenter à la présidentielle de cette instance.
Le tribunal civil n'a relevé aucune faille dans la procédure ni aucune atteinte aux droits de la personne, se félicite la FIFA dans un communiqué. Suspendu 6 ans par la commission d'éthique de l'instance du foot, Chung Mon-jun avait annoncé sa volonté de mobiliser tous les moyens légaux disponibles pour démontrer l'injustice de cette décision. Il a été reconnu coupable d'infraction dans le cadre de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Hier également, la FIFA a fait savoir que la candidature de Michel Platini ne sera pas examinée tant qu'il restera suspendu, une suspension de 90 jours qui s'achève le 5 janvier. Platini a fait appel devant la Chambre de recours et a déjà déclaré vouloir saisir le tribunal arbitral du sport en cas d'échec. En attendant, il laisse le champ libre à son principal adversaire de l'heure, le prince Ali de Jordanie.
Et ici aux États-Unis, l'ex-basketteur de la NBA, Lamar Odom, peut à nouveau marcher.
Odom revient de loin. Il avait été retrouvé dans le coma la semaine dernière. Il poursuit sa convalescence miraculeuse. Il a fait quelques pas, a indiqué l'une de ses tantes dans un communiqué confirmant également que Odom a quitté l'unité de soins intensifs de l'hôpital Sunrise de Las Vegas pour une clinique de Los Angeles. L'enquête de la police avait révélé qu'il avait pris de la cocaïne et des substances développant les performances sexuelles au cours d'un séjour de plusieurs jours dans une maison close.
Merci beaucoup, Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Incertitude ce mercredi au Congo-Brazzaville après les affrontements d'hier entre les forces de sécurité et les militants hostiles au référendum constitutionnel de dimanche qui devrait ouvrir la voie à un autre mandat du président Denis Sassou Nguesso en 2016. Pour le militant des droits de l'homme congolais, Luamba Moké de Brazzaville, les autorités n'avaient pas pris au sérieux la détermination des groupes opposés au référendum.
Les autorités ont communiqué d'une manière en retard, le gouvernement, comme nous le disons. La communication n'était pas fluide, n'était pas permanente. Au moment où l'opposition avait déjà mis en place leur programme de travail, leur programme de meeting, mais je pense bien que le gouvernement n'a pas pris ça au sérieux. Je pensais que ça ne pouvait pas réussir. Mais lorsque le gouvernement a communiqué le 19, alors il était déjà trop tard parce que la psychose de la population, parce que la population, lorsqu'on peut appeler à des désobéissances civiles, c'est vrai, mais vous savez que la population congolaise en a marre maintenant de ce genre des événements, les événements vécus par les Congolais dans leur sang propre, ils n'en veulent plus. Ce qui fait que les Congolais ont pensé qu'il pouvait y avoir des affrontements entre les deux camps et les gens ont préféré rester chez eux, certains ont préféré se déplacer pour aller plus loin, c'est-à-dire en dehors de Brazzaville.
À quoi faut-il s'attendre pour la journée du 21 octobre?
D'abord, vous savez bien que nous, on ne peut plus communiquer, l'Internet est coupé, les SMS s'est coupé aussi. Bon, on est dans une situation, c'est-à-dire on ne peut plus contrôler ce qui se passe. Bon, et là aussi, on n'a pas d'électricité. Bon, dans certains quartiers, la plupart des quartiers, on n'a pas d'informations. Bon.
Et vous, en tant que militant des droits de l'homme, comment voyez-vous l'évolution de cette situation?
En ce qui concerne effectivement notre point de vue, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment la négociation entre les deux camps, parce que si les deux camps gardent leur position, ça ne sera pas une situation heureuse. Et nous pensons bien qu'il faut qu'il y ait une médiation, soit une médiation sur le plan national, sur le plan régional, et pourquoi pas sur le plan international.
Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la présidentielle de ce dimanche en Côte d'Ivoire. Un scrutin jugé crucial dans un pays marqué par la guerre civile de 2010-2011. Sept candidats tenteront de déloger le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat. Ouattara est déclaré favori, mais les jeux sont-ils faits? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Direction le Sénégal, où comme dans d'autres pays du continent, certains jeunes font le choix du retour, car leur pays d'origine offre désormais plus d'opportunités et de stabilité sociale. Reportage à Dakar sur des jeunes Sénégalais qui ont réussi leur retour au pays après plusieurs années d'émigration avec notre correspondant Sokhna Mbaye.
De plus en plus, des jeunes immigrés quittent leur pays d'accueil pour s'installer au Sénégal. Les motivations sont presque les mêmes. Gérer ses propres affaires. Babacar Diouf est rentré définitivement du Canada depuis 6 ans.
Je suis allé au Canada, donc j'ai fait 6 ans au Canada entre 2003 et 2009. Donc après mon bachelor en ressources humaines, je suis rentré au Sénégal.
Aujourd'hui, cet homme de 32 ans est à la tête d'une entreprise de lavage professionnel. Tout début est difficile, dit-on. Babacar confirme. Il a fallu un coup de pouce de son père.
C'était pas évident, mais j'ai su créer quelque chose. Je vais pas me cacher, c'est mon père qui m'a aidé donc, au début. Et puis, ça a été dur au début, mais comme je le dis tout le temps, il faut toujours aller jusqu'au bout.
Cher Tidiane, lui, n'a dû compter que sur lui-même. Il dirige une société de livraison express.
Au début, c'était très, très, très difficile. Pas de moyens, de subventions, de mécènes pour accompagner les jeunes. Mais là, depuis peu, ça va. Mis à part la crise, on va dire que ça va. Je partais sur fonds propres.
Le jeune entrepreneur a étudié l'économie et la gestion des organisations. Durant 9 ans, il a bourlingué un peu partout en France avant de remettre son avenir en question.
J'ai fait Strasbourg, Lille et beaucoup d'autres villes. J'ai étudié et j'ai travaillé.
Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à abandonner une vie dans un pays développé au profit d'un autre plutôt pauvre? Simple, ils sont chez eux. Babacar Diouf.
Ce que tu ne peux pas avoir dans ton pays, tu ne peux pas l'avoir dans un autre pays. Donc c'est ce qui m'a poussé à revenir ici et bâtir quelque chose et puis faire travailler des jeunes Sénégalais.
En plus de cela, cher Tidiane ajoute le facteur famille.
C'était pas évident de réussir dans un pays autre que le sien. Et il y avait beaucoup d'autres paramètres qui rentraient en jeu. Mes parents, la famille. Voilà, je voulais créer quelque chose qui était propre au Sénégal.
Le courage et la détermination ont payé. Après plusieurs années, ils ont réussi dans leurs domaines respectifs. Dans le secteur de la livraison express, la société de Cher est la première au Sénégal. En ce moment, Cher emploie une vingtaine de personnes.
Dans la livraison express, comme on le fait aujourd'hui, je suis le précurseur, on va dire.
Les autres ont suivi.
Voilà.
De son côté aussi, Babacar a beaucoup évolué.
Je suis parti de 2 employés jusqu'à maintenant 7 employés. Comme j'ai fait ressources humaines, donc normalement, je dois pouvoir gérer mon entreprise. Tout ce qui est salaire, tout ce qui est entrée, sortie, donc la gestion, quoi.
2 trentenaires ambitieux et qui ont tant à prouver. Ils l'ont compris, comme beaucoup d'autres, l'Occident n'a plus rien à leur offrir. Et on a l'habitude de dire « home sweet home ». Nana Tambay Dakar, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Notre envoyé spécial Nicolas Pineau s'est rendu dans le nord de la France, à Calais, dans le cadre de son reportage sur la crise migratoire en Europe. Calais est la principale ville française de liaison avec la Grande-Bretagne grâce à son port, mais grâce également au tunnel sous la Manche. C'est aussi là qu'existe un camp de plusieurs milliers de migrants appelé la jungle. Migrants qui tous souhaitent rejoindre l'Angleterre, dernière étape de leur voyage. Écoutons son reportage.
Des taches bleues ou blanches se comptent par centaines. Bienvenue dans la jungle, nom barbare de ce bidonville où s'entassent déjà plus de 4000 personnes aux abords de Calais. Soudanais, Afghans ou Syriens, ils attendent de pouvoir gagner l'Angleterre mais sont bloqués en France dans la misère. Céline Schmitt est la porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés.
Les conditions de vie ici à Calais, comme vous le voyez, sont vraiment déplorables. Les personnes vivent sous des bâches en plastique et la majorité des personnes qui sont ici parce qu'elles fuient des conflits ou fuient des persécutions. Tout le monde doit être traité avec dignité, avec humanité, réfugiés ou migrants.
Qu'il semble loin le rêve anglais dans ces tentes balayées par le vent et le sable, les migrants tentent de survivre et de préparer l'hiver qui approche. Emmitouflé dans son gros manteau, ses gants et son bonnet, Badeldine Chogar est un Soudanais originaire du Darfour.
C'est très dur de vivre ici. Le temps est très mauvais avec de la pluie. Il fait très froid, il y a du vent. Very cold,
windy. Et leur attente devrait se prolonger puisque le port de Calais a été totalement sécurisé avec des clôtures hautes de 3 mètres et des fils barbelés au-dessus. Les forces de police patrouillent en nombre dans ce secteur ainsi que sur celui d'Eurotunnel. Les policiers tentent d'empêcher les migrants de se cacher dans des camions direction l'Angleterre via le tunnel sous la Manche. Un dispositif musclé qui ne semble pas les dissuader, comme le constate impuissant l'adjoint au maire de Calais en charge de la sécurité, Philippe Mignonnet.
Des migrants sur l'autoroute, essayant, et on peut comprendre, c'est l'énergie du désespoir, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres, ils sont arrivés ici, à 30 km du Royaume-Uni, et n'ont qu'un seul souhait, c'est s'y rendre, par quelque moyen que ce soit.
Un centre de 1500 places doit être créé sur le site, insuffisant, alors que la population de la jungle pourrait doubler d'ici la fin de l'année. En attendant, d'autres drames sont à craindre. 16 migrants ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année en tentant de rejoindre l'Angleterre. Depuis Calais, dans le nord de la France, Nicolas Pineau, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Des drones au secours des sapeurs-pompiers dans la lutte contre les incendies, voilà une idée qui est en train de faire son chemin. Divers responsables gouvernementaux américains ont assisté ce mois-ci à un vol de démonstration de l'hélicoptère téléguidé K-Max. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le K-Max est le plus grand aéronef téléguidé à être testé dans la lutte contre les incendies cette année ici aux États-Unis. Déployé contre un feu de forêt dans l'État de l'Idaho, l'appareil a procédé à des largages d'eau et à l'acheminement des diverses ressources dans cette zone montagneuse. Tous ces déplacements étaient télécommandés à partir d'une station au sol. Un pilote se trouvait tout de même à bord pour reprendre les choses en main en cas de besoin. L'hélicoptère K-Max peut voler dans l'obscurité à travers une épaisse fumée, des conditions qui clouent habituellement au sol les avions de lutte contre les incendies, a expliqué Bob Maninsky, vice-président de Kaman Aerospace, la compagnie produisant le K-Max. Nous pouvons combattre le feu 24 heures sur 24, l'appareil étant téléguidé avec option pilotage. C'est un avantage et vous pouvez larguer de l'eau sur les feux 14 à 15 heures de plus qu'avec l'appareil piloté. Selon Maninsky, le corps de marine a utilisé deux hélicoptères K-Max et les commandés en Afghanistan pour réapprovisionner des postes de combat éloignés en pleine nuit. Ces appareils ont remplacé les dangereux convois routiers, a souligné le vice-président de Kaman Aerospace. Nous avons fait quelques petits ajustements pour les rendre très sûrs. Lorsque nous les avions introduits en Afghanistan, les soldats ne voulaient pas s'approcher de ces appareils lorsqu'ils étaient en vol stationnaire, craignant qu'ils ne leur tombent dessus. Mais vers la fin de la démonstration, plusieurs d'entre eux se précipitaient pour accrocher avec beaucoup de confiance des charges à ces appareils. D'un coût de 7 millions de dollars, l'hélicoptère téléguidé K-Max peut soulever jusqu'à 2700 kg de charge, soit l'équivalent de son propre poids. Pour Art Hinneman, directeur adjoint de l'aviation au service forestier américain, cet appareil a beaucoup de potentiel. C'est fascinant ce qu'il peut faire. La technologie est là. Pour nous, la capacité d'opérer sans risquer la vie d'un pilote dans des conditions de mauvaise visibilité, par mauvais temps, alors que les gens au sol ont besoin d'aide, c'est monumental. À quand le déploiement effectif de ces drones contre les incendies? De l'avis de Bob Kirk-Curtis, responsable du programme aérien au ministère américain de l'Intérieur, il faudra encore quelques années avant d'intégrer ces appareils à l'ensemble des activités liées à la lutte contre les feux de brousse.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est au son de Bradley Gilbert qu'on se quitte et son titre Button Up. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. John Ellison était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll be right back.